président iranien arrive en Chine pour une visite de 3 jours. Le président syrien accepte d'ouvrir 2 autres points de passage frontaliers pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la partie nord du pays, frappée par le séisme et contrôlée par des groupes extrémistes. Et au Burkina Faso, 20 de personnes ont été tuées dans 2 attaques séparées. C'était les principaux titres. En voici le journal. Dans la matinée de ce mardi 14 février, le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé à Pékin à la tête d'une délégation économique et politique de haut rang. Le président iranien, qui s'est rendu en Chine à l'invitation officielle de son homologue Xi Jinping, est entré à l'aéroport international de Pékin et a été accueilli par le ministre chinois de la Culture et du Tourisme. Ebrahim Raisi sera reçu officiellement par le président chinois sur les locaux du Congrès de la Chine. La rencontre avec son homologue chinois et la signature d'importants documents de coopération bilatérale, ainsi que la rencontre avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, figurent dans l'emploi du temps de la première journée de la visite de 3 jours du président iranien en Chine. Le président Raisi doit également s'entretenir avec des hommes d'affaires chinois et ses compatriotes vivant en Chine, selon l'agence officielle iranienne IRNA. Les deux présidents s'étaient rencontrés pour la première fois en septembre 2022 lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai organisé à Samarcande en Ouzbékistan, où les deux parties ont appelé au renforcement des relations économiques bilatérales, notamment dans les domaines du pétrole et de l'énergie, du transit, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement. Pékin cherche depuis longtemps à renforcer ses liens avec Téhéran. Le président Xi Jinping avait décrit l'Iran comme le principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient lors d'une visite en Iran en 2016. D'ailleurs, Pékin entend jouer un rôle constructif dans le renforcement de l'unité et de la coopération avec des pays du Moyen-Orient, ainsi que dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région, a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, lors d'un point de presse lundi 13 février. Pour rappel, le président Raisi est accompagné des ministres des Affaires étrangères, de l'économie, de la route et des transports, du pétrole, de l'industrie, des mines et du commerce et de l'agriculture. La pression extérieure et les sanctions ne sont pas un obstacle à la coopération entre Moscou et Téhéran. Au contraire, les restrictions illégales continues ne font que renforcer les tendances positives dans les relations bilatérales émergées au cours des dernières années, a déclaré lundi 13 février la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. En réaction aux déclarations du président français Emmanuel Macron, Zakharova a souligné que la Russie et l'Iran cultivent une coopération mutuellement bénéfique, quelle que soit l'opinion de l'Occident. Il est à noter que Macron a récemment prétendu que le soutien de Téhéran à Moscou pourrait exposer l'Iran à des sanctions et un isolement croissant. Selon Maria Zakharova, le commerce russo-iranien en 2022 a bondi de 20,2%, dépassant les 5 milliards de dollars. La logistique et l'infrastructure de paiement sont améliorées. Cela crée des conditions pour la poursuite de l'expansion de la coopération bilatérale, d'abord et avant tout dans les domaines commercial et économique, a-t-elle déclaré, ajoutant que les deux pays sont guidés par les intérêts de leur peuple. Par ailleurs, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré que la Russie et l'Iran ont coopéré activement dans le secteur bancaire et qu'ils cherchent à augmenter l'usage de leur monnaie nationale dans les transactions commerciales. La plupart des monnaies nationales dans les transactions commerciales entre les deux pays a dépassé 60% en 2021. Cette tendance positive s'est poursuivie l'année dernière, a-t-il fait savoir lors d'une interview accordée à l'agence de presse russe Interfax. Selon lui, l'interaction avec l'Iran s'est activement développée au niveau des banques centrales et des établissements de crédit. Dans une autre partie de son interview, le diplomate russe a souligné la mise en place d'un réseau d'échanges financiers entre l'Iran et la Russie dans le cadre de cette plateforme. Les systèmes de messagerie des deux pays seront liés les uns aux autres et toutes les banques iraniennes et celles de la Russie pourront avoir des messages bancaires standards. Rappelons que le mémorandum irano-russe au sujet de la mise en place d'un réseau d'échanges financiers entre les deux pays a été signé dimanche 29 janvier. Le président syrien a accepté d'ouvrir deux autres points de passage frontaliers pour une période initiale de 3 mois pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la partie nord du pays, frappée par le séisme et contrôlée par des groupes extrémistes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé cette nouvelle lundi 13 février, après que le président Assad approuvait l'utilisation des points de passage de Bab el-Salam et Al-Araï, qui relie la Turquie, au nord-ouest de la Syrie, à des fins humanitaires. Le président syrien a donné son aval à l'ouverture de ces deux passages juste après que l'ONU a déploré qu'un groupe anti-gouvernemental, qualifié de terroriste par la communauté internationale, ait empêché l'acheminement des envois d'aide vers les régions touchées par le séisme dans la partie nord de la Syrie. Le porte-parole du bureau d'aide humanitaire de l'ONU a déclaré dimanche « Il y avait des obstacles dressés par un groupe identifié comme étant le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham ». Le secteur nord de la Syrie, qui est actuellement sous le contrôle du HTC, Hayat Tahrir al-Sham, a reçu peu d'aide humanitaire car les terroristes ont fermé les lignes de front sur le gouvernement malgré l'annonce la semaine dernière par Damas de sa volonté d'envoyer de l'aide dans cette région. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a envoyé davantage de convois d'aide humanitaire dans les zones touchées par le tremblement de terre en Syrie, déplorant le faux plaidoyer des gouvernements occidentaux en faveur des droits humains. L'aide humanitaire est partie pour la ville de Latakia dans l'ouest de la Syrie, située sur la mer Méditerranée, et aurait inclus des tentes, des vivres, des fournitures sanitaires, d'autres nécessités quotidiennes et du matériel médical. Saïd Hachem Safieddin, chef du conseil exécutif du Hezbollah, a déclaré que l'acheminement d'aide sera suivi d'autres lots d'aide d'urgence à Alep et ailleurs dans les régions dévastées par le séisme. Les victimes du tremblement de terre ont désespérément besoin d'aide. La Syrie a toujours été à nos côtés en cas de besoin, a déclaré Safieddin, soulignant que le Hezbollah soutiendra les Syriens et ne laissera pas sans aide tout au long de la situation difficile actuelle. Les pays de l'OTAN dirigés par les États-Unis s'engagent à augmenter la production de munitions militaires pour approvisionner l'armée ukrainienne. L'OTAN considère qu'il est nécessaire de rendre l'armée ukrainienne encore plus forte après la fin du conflit actuel et de l'adapter entièrement aux normes de l'OTAN, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse à Bruxelles lundi 13 février. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que nous soyons en mesure de renforcer l'Ukraine avec un soutien, avec une formation, a-t-il précisé avant d'indiquer que l'OTAN envisage également une transition à plus long terme des forces armées ukrainiennes, des doctrines et des équipements de l'ère soviétique vers des capacités modernes de l'OTAN qui sont interopérables avec les alliés. Il a déclaré que l'OTAN était étroitement engagé avec les sous-traitants de la défense pour accélérer la production de munitions et que la question sera discutée lorsque les ministres de la défense de l'Alliance Nord-Atlantique se réuniront pour une prochaine réunion à Bruxelles les 14 et 15 février. Exhortant les membres de l'OTAN à fournir des armes à l'Ukraine le plus rapidement possible, le secrétaire général de l'OTAN a admis que le problème existait, mais qu'il pouvait être résolu. Entre-temps, l'administration du président démocrate américain Joe Biden œuvre avec le Congrès pour approuver une autre aide budgétaire directe de 10 milliards de dollars à Kiev, a rapporté Washington Post, affirmant que Biden est censé annoncer un autre important programme d'assistance militaire la semaine prochaine et l'imposition de nouvelles sanctions au Kremlin à peu près au même moment. Une vingtaine de personnes, dont des supplétifs de l'armée burkinabé, ont été tuées dans deux attaques perpétrées jeudi et dimanche dans le nord-ouest et l'est du Burkina Faso, a appris lundi chinois de sources concordantes. Selon une source sécuritaire locale dans la soirée de dimanche, le village de Yarkadenga, situé dans la province de Kulpelogo, dans la région du centre-est du Burkina Faso, a été la cible d'une attaque attribuée aux groupes armés terroristes. Une dizaine de personnes, dont deux combattants volontaires pour la défense de la patrie, VDP, supplétifs de l'armée, ont été tués, a expliqué un ressortissant de la localité. Une autre source sécuritaire a confirmé cette attaque, soulignant que le bilan provisoire était de 12 morts et des infrastructures de communication détruites. Avant cette attaque, au moins 7 combattants volontaires ont trouvé la mort jeudi dans un affrontement avec un groupe armé terroriste dans la localité de Dembo, dans le nord-ouest du Burkina Faso. C'est dans cette région du pays que deux employés de Médecins sans frontières ont été tués mercredi dans une attaque terroriste. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée. L'insécurité qui sévit au Burkina Faso depuis 2015 a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés, selon des observateurs locaux. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Altanf, les forces US recrutent des terroristes à destination de la Russie. Les forces américaines déployées en Syrie recrutent et entraînent des dizaines de terroristes Takfiri pour mener des attaques en Russie et dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Les forces américaines entraînent actuellement au moins 60 terroristes affiliés au groupe terroriste Daesh et Al-Qaïda dans la base militaire d'Al-Tanf, annoncé lundi 13 février, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, SVR, qui ajoute que 60 de ces terroristes ayant une expérience de combat au Moyen-Orient ont été sélectionnés au mois de janvier pour être formés dans cette base située dans la province méridionale de Homs, en Syrie, près des frontières avec l'Irak et la Jordanie, avec pour mission de mener des attentats terroristes en Russie et dans des pays de la Communauté des États indépendants, CEI, composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques. Selon l'agence de presse TASS, qui rapporte la nouvelle, le SVR ajoute que ces terroristes suivent une formation intense pour apprendre à fabriquer et utiliser des engins explosifs improvisés, en plus de méthodes subversives pour mener leurs attaques. Une attention particulière est accordée à la planification d'attaques contre des installations fortement protégées, y compris des missions diplomatiques étrangères, ajoute le communiqué du SVR, soulignant que Washington prévoit d'envoyer les terroristes en petits groupes. Dans un avenir proche, il est prévu de déployer des terroristes en petits groupes sur le territoire de la Russie et des pays de la CEI. Ils seront chargés de planifier et de perpétrer des attentats terroristes contre des diplomates, des fonctionnaires, des agents des forces de l'ordre et des militaires. Toujours selon le SVR, les attaques terroristes seront menées en coopération avec des cellules clandestines de factions terroristes internationales telles que les groupes extrémistes Hizb ut-Tahrir et Jamaat Ansarullah, également connus sous le nom des Tadjikistanis talibans, tous deux interdits en Russie. Dans ces entraînements, il y a eu une préférence pour la mise à contribution des natifs du Caucase du Nord, un district fédéral de la Russie, et de l'Asie centrale, précise le SVR. Et de souligner que de tels stratagèmes démontrent l'absence totale de tout principe moral dans les services de sécurité américains. Obsédés par l'idée insensée d'exsanguiner la Russie, les experts basés à Washington considèrent qu'il est acceptable d'utiliser directement des terroristes à leurs propres fins. De telles actions placent Washington sur un pied d'égalité avec les principaux groupes terroristes internationaux, a conclu l'agence de renseignement russe SVR. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, Moscou a répété à maintes reprises que les États-Unis auraient entraîné des centaines de terroristes Takfiri de Daesh et d'Al-Qaïda dans des bases américaines en Syrie, avec pour but de les envoyer plus tard en mission sur le champ de bataille en Ukraine pour lutter contre la Russie.